France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
Bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes ensemble et en direct pour l'heure qui vient. Nous sommes le 23 février et les élections municipales approchent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 15 mars pour le premier tour. Alors ici, on a voulu comprendre à quels enjeux économiques les maires étaient confrontés et comment les politiques nationales s'appliquent, s'incarnent à l'échelle locale. Industrie, logement, dette publique, quelle réalité derrière les grandes idées? On commence aujourd'hui avec cette question. Les territoires ont-ils pris la relève de l'État en termes de politique industrielle? En seconde partie d'émission, on poursuit notre série consacrée à la diplomatie économique entre affaires d'État et intérêts privés. Pour avoir voix au chapitre, employeurs et patrons ont vite compris qu'il fallait être représentés sur la scène internationale et ce dès les années 20. Deux institutions leur donnent cette opportunité. Plongez donc au sein de la Chambre commerciale internationale et de l'Organisation internationale des employeurs auprès des diplomates du capitalisme. Et enfin, à 14h55, l'économiste Alexandra Roulet nous rejoindra pour tirer le fil de l'écho. Un fil qui nous mène aujourd'hui au cœur des algorithmes qui dictent les prix. Et avant de se lancer, je salue et remercie très chaleureusement Camille Mathy qui réalise cette émission et Éric Perruchot-Triboulet qui la met en onde. Et nous voilà prêts à ouvrir la traditionnelle parenthèse de retour sur l'actu de la semaine. Parenthèse un peu particulière aujourd'hui car je vous emmène dans les coulisses de l'émission pour vous raconter pourquoi et comment nous choisissons avec Tina Young qui prépare avec moi toutes les semaines cette émission de traiter ou non d'un sujet. Mercredi dernier, la nouvelle tombe, Claude Raynal et Jean-François Husson, respectivement sénateur PS et LR et respectivement président et rapporteur général de la commission des finances au Sénat, annoncent avoir reçu un petit paquet de documents de la part de Bercy, autrement dit du ministère de l'économie et des finances, documents dont ils ont bien aimablement synthétisé le contenu dans une note de 5 pages, jusqu'ici rien de renversant à proprement parler. C'est l'article 24 de la Constitution, le Sénat contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Mais pour bien comprendre l'impact de cette note, il faut remonter au 11 janvier dernier, lorsqu'Éric Lombard, relevé de ses fonctions de ministre de l'économie et des finances quelques mois plus tôt, le 5 octobre 2025, donne une interview au journal Libération. Fort de son nouveau statut, c'est-à-dire de ne plus en avoir officiellement, du moins au gouvernement, il est présenté comme spectateur des discussions budgétaire après en avoir été l'artisan, ce dont attestent à leur manière les baskets bleues tout à fait détentes qu'il aborde sur la photo qui illustre l'entretien prise le 21 octobre, signale que oui, Éric Lombard peut se lâcher et du reste il le fait, il se lâche, il exprime son regret vis-à-vis d'un projet de taxation différentielle des hauts patrimoines sur lequel il avait travaillé et qui n'avait jamais vu le jour alors même que selon lui, il est sain de vérifier que compte tenu d'un patrimoine donné très important, en excluant l'outil de travail, il y ait un taux minimum d'impôt, je le cite là, et pour donner du poids à sa proposition, il lâche ce que d'aucuns n'ont pas hésité à qualifier de bombe. La direction des finances publiques avait regardé. Parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de zéro. Ils ne paient aucun impôt sur le revenu, point d'exclamation. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Le 14 janvier, soit 3 jours plus tard, Amélie de Montchalin fait face aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Elle affirme haut et fort
« Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paierait aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait. Et si c'était le cas, cela fait bien longtemps, évidemment, que cette situation aurait été dénoncée, de corrigée.
Le même jour, nos deux protagonistes du début, les sénateurs Claude Raynal et Jean-François Husson, demandent à Roland Lescure et Amélie de Montchalin l'intégralité des documents fiscaux qui permettraient de vérifier la véracité de la bombe, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, document transmis 2 jours plus tard, le vendredi 16 janvier, dans un premier temps, puis complété au fil des entretiens, si bien que le 31 janvier, nos deux sénateurs disposaient de toutes les données demandées. Le 16 janvier toujours, qui a dû être une journée bien chargée pour la DGFiP à Bercy, on retrouve Éric Coquerel, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, face aux caméras, dos au bâtiment de Bercy, où il s'était rendu profitant d'une petite pause dans les débats budgétaires qui, à l'époque, souvenez-vous, étaient en cours.
Donc j'avais dit qu'aussitôt que j'aurais quelques heures, je viendrais à Bercy pour aller chercher les documents, enfin, en tout cas les consulter, annoncés par Éric Lombard cette semaine, qui semblerait démontrer que, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, ce que donnait notamment une étude de l'Institut des politiques publiques, il n'y a pas quelques centaines d'ultra-riches qui ne payent quasiment pas d'impôts sur le revenu, mais plutôt plusieurs milliers. Puisque chacun comprendra qu'en réalité, ça veut dire que ces gens-là ont une imposition globale, tout compris, quasiment 2 fois inférieure à la moyenne des Français, alors que leur fortune, évidemment, est exponentielle par rapport aux Français. Donc je suis venu chercher à Bercy ces documents, accueillis, je crois, très bien par la DGFiP, me semble-t-il, qui est déjà là, comme ils le font à chaque fois d'ailleurs. Et j'espère pouvoir en tirer des enseignements.
Mais qui sont ces gens-là? D'où vient leur fortune? Et surtout, comment expliquer que ces derniers ne soient pas soumis au principe d'égalité devant l'impôt? Pour y voir plus clair, le député Charles de Courson annonce le 3 février lancer une commission d'enquête sur l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés, demande jugée recevable par les députés de la Commission des Finances le 11 février dernier. À ce moment-là, le tableau est donc le suivant. Le gouvernement nie, les députés doutent, Bercy est pris d'assaut, ou peu s'en faut, la tension est à son comble, ou peu s'en faut. Une tension renouvelée lorsque paraît le 18 février, mercredi dernier donc, la fameuse note synthétique des deux sénateurs, et le verdict tombe. 18 525 foyers redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, ne paient en revanche aucun impôt sur le revenu sur l'année fiscale 2024. La bombe d'Éric Lombard serait donc celle de la vérité, et les déclarations d'Amélie de Montchalin, entre-temps nommée à la tête de la Cour des comptes, on en parlait la semaine dernière, sérieusement remises en cause. Choquant, commente Mediapart, des chiffres explosifs de Bercy qui embarrassent le corps nu, selon la Tribune, jamais avare en sensation forte. De quoi relancer le débat sur la fiscalité des grandes fortunes, conclut plus sobrement Le Monde. Alors forcément, nous, entendez-vous l'écho, quand on lit ça, on se dit qu'on tient là un bon sujet, mais lequel au juste? Et très très vite, les choses se sont compliquées. Sur les 18 525 foyers pointés dans le rapport, une partie ne réside pas en France. Leurs revenus, si tant est qu'ils en aient, ne sont donc pas taxés et une autre partie est décédée. Ils ne sont donc plus que, et je mets là des guillemets, 13 335. Ensuite, il faut distinguer ce qui relève de l'IFI et de l'IR, l'impôt sur le revenu. L'un taxe le patrimoine, l'autre, comme son nom l'indique, les revenus. Alors quel rapport? Ne pas payer d'impôt sur le revenu ne veut pas dire que l'on ne paye pas d'impôt sur les sociétés, qu'on ne paye pas de TVA. Bref, ces gens-là, pour reprendre l'expression consacrée, n'échappent pas totalement à l'impôt, à moins que si, ce qui poserait une autre question, un autre problème de taille. Et quelles leçons peut-on tirer d'une cohorte d'un peu plus de 13 000 foyers, soit 0,03% des 41 millions de foyers fiscaux que compte la France sur une seule année fiscale? Et comment savoir ce qui relève de l'optimisation volontaire via les holdings qui sont largement évoqués dans la note des sénateurs et ce qui relève de cas spécifiques liés par exemple à de très fortes variations de revenus? Alors pour comprendre, nous avons multiplié les coups de fil à de bons et loyaux économistes, habitués ou non de l'émission, et je profite d'ailleurs de cette parenthèse pour les remercier. Pour certains, les chiffres ne sont pas une surprise en soi, quiconque travaillant sur ce sujet pouvant les obtenir. Pour d'autres, il est très compliqué de se prononcer sur les profits des individus concernés. La note ne dit rien de la proportion de comportement d'évasion et de nombreux cas de figure existent. Les indépendants qui n'auraient pas réalisé de bénéfices cette année-là tout en restant propriétaires d'un important patrimoine. Le fameux cas aussi de la veuve de l'île de Ré, soit les retraités propriétaires de biens d'une très forte valeur, mais qui par définition n'ont pas de revenus. Bref, les cas sont nombreux, un peu trop peut-être pour tirer des généralités. Ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas. Pourquoi est-ce qu'il faut littéralement assiéger Bercy pour obtenir ces informations? Pourquoi le revenu, soit le travail, est-il plus facilement taxable que le patrimoine? Comment imaginer un système où les plus-values serviraient de référence? Et quelles sont les conséquences macroéconomiques de la constitution et surtout de la perpétuation d'un groupe d'individus qui peuvent se contenter de vivre sans revenus ou de moins sans revenus déclarés? Autrement dit, qu'est-ce qui arrive à une économie constituée de rentiers? Tous ces sujets se valent, mais tous impliquent là encore d'avoir accès à des données plus larges et sans doute aussi plus précises. Un bon sujet, toujours dans nos tuyaux, je le signale, serait de se pencher sur le rôle exact des holdings et la façon dont ces structures juridiques ont émergé, quel usage en effet et dans quelle mesure elles respectent la lettre mais aussi l'esprit de la loi fiscale française. À ce sujet, on a presque cru à un moment, malgré le manque d'infos précises, parce que nous étions mercredi et que la rumeur courait que le Conseil constitutionnel, saisi par Sébastien Lecornu lui-même, allait potentiellement retoquer la taxe holding pour cause de rupture de l'égalité devant l'impôt ou encore en raison de son caractère confiscatoire. Mais dès le lendemain, Richard Ferrand nous délivrait de nos doutes existentiels. Le PLF a été validé quasi intégralement et ce qui concerne la procédure, en tout cas, la taxe holding également. Toutes ces réflexions nous ont mené en ce qui nous concerne à la conclusion qu'on attendra de pied ferme celle de la commission parlementaire, mais qu'en attendant, il se passe des choses tout de même cruciales dans l'actualité, à savoir au hasard l'horizon d'une élection municipale qui est aussi résolument économique et à laquelle nous allons nous intéresser tous les lundis jusqu'au premier tour. Aujourd'hui, premier volet et première question, les territoires ont-ils pris la relève de l'État en termes de politique industrielle?
La région a annoncé,
François Bonneau, président de la région Centre-Val-de-Loire,
une intervention à hauteur de 7,6 millions d'euros. La métropole était dans le même niveau d'engagement.
11 décembre 2025.
Le ministre, à ma demande, était venu lundi dernier pour relancer cette entreprise, pour soutenir le seul projet qui permettait une reprise maximum de l'emploi, 400 sur 700. Le seul projet qui continuait la fabrication industrielle, c'était celui-ci. Le seul projet qui donne de la crédibilité au Made in France, faut se battre pour la réindustrialisation, c'était celui-ci.
Tout le monde vient gloser sur la réindustrialisation de la France, mais la réalité, elle est là aujourd'hui.
Serge Grouard, maire d'Orléans.
Elle est qu'on a une super boîte qui va couler. Cette boîte, elle était sauvable. Cette boîte, elle aurait dû tourner, elle doit continuer d'exister, cette boîte. Merde, c'est la France ici, quoi.
Le 11 décembre 2025 pour TF1.
C'est plus qu'un gâchis. C'est une pétaudière et c'est un système qui ne fonctionne plus, qui est vérolé.
Une entreprise qui est depuis 35 ans sur le territoire.
Aurélien Taché, député de la 10e circonscription du Val d'Oise.
Qui est entré au CAC 40, qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Le 27 janvier dernier.
Et qui a 9% de bénéfices et qui explique à des gens qui ont pour la plupart plus de 20 ans d'entreprise qu'ils sont tous licenciés du jour au lendemain. Donc je voulais vous interpeller sur ce dossier, monsieur le ministre. Je doute que vous n'aviez pas prévu de réponse, mais je préfère quand même vous en parler. Et je vous invite même à venir avec moi à Puise de Pontoise pour voir ce qu'on peut faire. C'est véritablement un fleuron de l'industrie de ce territoire et véritablement nous ne pouvons pas accepter qu'il soit de manière aussi brutale rayé de la carte économique du Val d'Oise. Merci.
Un président de région, un maire et un député, les uns réagissent au rejet du projet de reprise en scope de l'usine Brandt, l'autre à la fermeture de l'usine Lizy à Puisieux-Pontoise. Tous se mobilisent au nom de la réindustrialisation et surtout au nom des territoires, donnant ainsi le sentiment qu'au-delà des plans et des grandes mesures, la réalité de l'industrie se joue avant tout sur le terrain. Alors que peuvent faire les élus locaux, les collectivités territoriales face aux questions industrielles et au-delà de la compétence, de quels moyens disposent-ils? Où se joue exactement le rapport de force dès lors qu'il est question d'industrie? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités dans le cadre des élections municipales qui approchent. Lucas Chevrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Votre thèse en sciences politiques s'intitule « Territoire d'industrie, un redéploiement décentralisé de la politique industrielle de l'État ». Sous la direction de Gilles Craig, elle a été financée par Intercommunalité de France, Banque des Territoires, Institut Caisse des dépôts pour la recherche, la délégation Territoire d'industrie et enfin l'Agence nationale de la cohésion des territoires. J'ai réussi à tout dire, c'était un défi qu'on s'était posé avant cette émission. Et vous êtes également chargée de recherche, économie, industrie pour Intercommunalité de France. Caroline Granier, vous êtes également avec nous en studio. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences économiques, directrice des études à la Fabrique de l'Industrie et coordinatrice des activités de l'Observatoire des territoires d'industrie. Alors, deux actualités nous permettent d'aborder de front le sujet, Lucas Chevrier. Jeudi, on apprenait que la région Centre-Val de Loire et la métropole d'Orléans soutenaient une offre de reprise des actifs de Brandt, qui a été mis en liquidation, je le rappelle, en décembre dernier, en association avec le groupe Gladius. Et jeudi prochain, donc dans quelques jours, le 26 février, la Commission européenne devrait présenter l'Industrial Accelerator Act, son texte pour favoriser le Made in Europe. En termes de politique industrielle, qui a vraiment le pouvoir, Lucas Chevrier? Est-ce qu'on peut parler d'une trajectoire décidée en haut, mais sur le terrain, les choses se font vraiment à l'échelle territoriale? Est-ce qu'on peut résumer les choses ainsi?
Bonjour, donc merci de déjà me donner l'occasion de sortir de la bulle de rédaction de fin de thèse. J'aimerais bien, ce serait bien d'avoir, dans l'idéal, un mythe selon lequel il y aurait un État planificateur en mesure d'ordonner toutes les actions pouvant pérenniser l'industrie, malheureusement, ou heureusement, enfin en tout cas c'est la réalité politique, nous sommes de plus en plus entrés dans un système multiniveau. On a en France un mythe de l'État interventionniste. On imagine De Gaulle, le Concorde, de belles images d'Épinal.
On avait la Datar aussi.
La Datar, ça fait frissonner, etc. Sauf que plusieurs réalités arrivent, la décentralisation avec trois actes dans les années 80, au début des années 2000 et en mi-temps des années 2010, on y reviendra peut-être, et la construction européenne. Donc en fait, désormais, la politique industrielle, elle s'établit entre trois, voire quatre niveaux. Mais pour nous rassurer,
On laisse croire qu'il y a un capitaine d'industrie, c'est le cas de le dire, enfin en tout cas un capitaine dans ce bateau-là, mais si on vous comprend bien, Lucas Chevrier, la logique n'est pas top-down, comme on dit dans le milieu, voilà. C'est-à-dire du haut vers le bas. Il y a une autre question que je voulais vous poser, Caroline Granier, c'est qu'on pourrait se dire finalement, à quoi sert de se poser même la question des acteurs, de qui a le pouvoir, de quels sont les rapports de force, à partir du moment où on se dit que, en termes d'industrie, tout est question soit d'une forme de déterminisme géographique, on profite aussi de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, finalement, sur le territoire, d'une forme d'histoire aussi, de culture, d'une acculturation à une certaine industrie, et puis d'un contexte macroéconomique plus général qui touche secteur par secteur. Si vous êtes un secteur automobile, vous aurez beau avoir un maire qui se bat corps et âme, le secteur va mal et c'est une forme de fatalité. Alors, à quoi sert de se poser la question des acteurs, Caroline Granier, et est-ce qu'il faut peut-être nuancer cette forme de fatalité-là?
Il faut la nuancer parce que si on regarde la géographie industrielle, donc des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une évolution. Donc c'est, on va dire, finalement la première preuve de l'absence de fatalisme. Je rappelle très rapidement, dans les années 70, c'était surtout le Nord, la Lorraine, qui était très industrialisée. Il y avait aussi l'Alsace et les Rhône-Alpes. Et puis, au fur et à mesure, de la mondialisation et de cette phase de désindustrialisation qui s'est amorcée en France, on a observé un déplacement de l'industrie, en tout cas de l'emploi industriel, vers le quart nord-ouest. Donc aujourd'hui, si vous regardez les régions qui sont les plus dynamiques en termes d'emploi industriel, ce sont les régions Bretagne, Pays de la Loire. On remarquera qu'il y a eu un déclin effectivement plutôt côté nord-Lorraine, mais qu'il y a la persistance d'une industrie plutôt forte dans le nord et puis du côté de Grenoble et de Lyon.
D'où l'idée d'avoir des politiques ciblées aussi en fonction de la volonté des acteurs présents sur le territoire et en fonction aussi des moyens accordés. Alors reste à savoir qui sont ces acteurs. On a commencé à le dire avec Lucas Chevrier, ce n'est pas nécessairement l'État. C'est un tournant qui a été engagé au tout début des années 2000, voire la toute fin des années 90.
Les salariés existent. Il y a des syndicats. Il y a une mobilisation qui peut se mener. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise.
Voilà, Lionel Jospin, 1999, c'était une déclaration qui avait énormément fait réagir parce qu'elle actait aussi, d'une certaine manière, le fait que l'État ne peut pas tout. C'était littéralement ce qu'il disait. Que se passe-t-il, Lucas Chevrier, au début des années 2000 et pour être bien au clair sur les termes, est-ce qu'on doit parler d'une forme de retrait de l'État, de désengagement de l'État ou d'une reconfiguration de la façon dont elle conçoit les politiques industrielles?
Très bonne question. Merci de la poser. Lionel Jospin, pour la petite histoire, en 97, lorsqu'il dit ça, c'est à l'occasion de la fermeture de Renault. Et il dit précisément, il ne faut pas tout attendre de l'État. Qui a ensuite été interprété par l'État ne peut pas tout.
Oui, on s'enlève les mains et...
Voilà. C'est pas la même chose. Ce qu'il dit, c'est que l'État devient un acteur comme les autres, en fait, dans un jeu économique qui est distribué par l'État, mais aussi par les grandes entreprises. Et Jospin, en disant ça, en fait, il représente, il incarne quand même un référentiel, enfin un paradigme d'intervention qui le dépasse, puisque avant lui, il y a quand même d'autres ministres, Alain Madelin. Enfin, on est quand même dans un mouvement de réforme de l'État où l'État cesse d'intervenir par des grands paradigmes de filières et de secteurs. Et après lui, il y aura Nicolas Sarkozy, etc. Et donc, on est plutôt dans un contexte de réforme très profonde de la politique industrielle de l'État. Voilà, c'est la fin des plans quinquennaux du Commissariat général au plan, qui était un grand commissariat intersectoriel qui permettait de planifier le développement de l'industrie de manière indicative. Sous Jospin, c'est la fin du ministère de l'Industrie en tant qu'entité autonome, qui est intégrée au ministère de l'Économie. Et après lui, il y a la fin du Commissariat général au plan. Donc en fait, ça le dépasse, mais il représente bien
ce moment-là, et qui est un moment charnière aussi, parce que, je le disais, c'est tout début des années 2000, va être marqué par toute une série de réformes, et puis vous le disiez aussi, jusqu'à à peu près au mi-temps des années 2010. Bon, il y a la LOLF en 2001, la loi organique relative aux lois de finances, la RGPP, révision générale des politiques publiques en 2016, la REAT, réforme de l'administration territoriale de l'État en 2010, et j'en passe probablement. Finalement, la présence opérationnelle de l'État se réduit, reste à savoir qui prend le relais. Et là, Caroline Granier, impossible de ne pas mentionner la région. Est-ce qu'on peut dire qu'elle devient quelque part une forme de stratège à la place du stratège, qu'on fait de la région une forme de tête de pilotage qui bénéficierait d'un maillage territorial beaucoup plus pertinent pour mener à bien ces questions de politique industrielle?
Mais depuis la loi NOTRe de 2015, la région a la compétence de développement économique. Après, charge à la région aussi d'entretenir des relations aussi et une certaine coordination avec les autres niveaux que sont les départements et les intercommunalités notamment, qui disposent elles aussi d'un petit nombre de compétences économiques. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on cherche à industrialiser ou à redynamiser un tissu industriel, c'est pas seulement, on va dire, une question. Alors c'est une question bien sûr d'implantation d'usines, mais c'est aussi une question, par exemple, d'améliorer les mobilités dans un territoire, le logement.
Il y a plein de leviers en fait qui permettent.
Exactement, il y a plein de leviers qui permettent en fait de cette redynamisation, et ces leviers sont un peu on va dire, distribuée entre les mains de plusieurs institutions.
Alors, vous avez mentionné, Caroline Granier, la fameuse loi NOTRe de 2015, qui ne s'applique pas effectivement uniquement aux régions. On arrive là à un acteur qui nous intéresse particulièrement dans cette émission consacrée, on va dire, dans le cadre des municipales qui approchent, les établissements publics de coopération intercommunale. Alors, Lucas Chevrier, en quoi cela change la donne de voir ces acteurs-là qui voient une forme de nouvelle compétence leur arriver dessus? Quel pouvoir, très concrètement, cela donne aux communes ainsi réunies en termes de politique industrielle?
Tout à fait. La loi NOTRe change la donne puisqu'elle instaure un transfert obligatoire de la création, gestion, aménagement des zones d'activité économique aux intercommunalités. Ça a l'air très technique comme ça, mais c'est plutôt simple. Pour faire simple, maintenant, vous avez un même niveau, l'intercommunalité, donc des rapprochements de communes, qui sont seuls en charge de gérer le foncier économique. Or, toute usine atterrit quelque part. Donc à partir de là, vous avez un même bloc qui est en mesure de traiter une première question. Et comme l'a dit Caroline, quand une usine arrive, ce n'est pas que ça. C'est aussi avoir de l'emploi, de la formation, des ouvriers qualifiés, donc le logement. C'est aussi l'eau, la gestion publique de l'eau, donc la GEMAPI. C'est également l'électricité. Et si on regarde les grandes réussites, au sein des intercommunalités, des territoires qui sont souvent cités en exemple, si on prend le Grand Chalon, par exemple, qui est une logique de réindustrialisation, vous avez une intercommunalité qui a concentré pas mal de compétences de la part de leur commune et qui a requalifié des friches, Kodak en l'occurrence, pour réattirer des nouvelles usines. C'est la même chose à Dunkerque. Dunkerque a développé un réseau de chaleur fatale et une maîtrise de l'énergie assez puissante, avec donc concrètement des services techniques développés sur ces sujets, ce qui n'aurait pas forcément été le cas avec des communes.
Qui n'ont pas forcément cette puissance de voix, on va dire, ou même financière pour parler.
C'est un enjeu technique, c'est un enjeu humain, recruter des gens, c'est un enjeu financier, financer les investissements. Et donc le niveau intercommunal permet de solidifier, agglomérer cette puissance, et ça donne désormais un avantage compétitif, pour me reparler dans un cadre plus économique, par rapport à d'autres territoires.
Caroline Granier, vos collègues, que je cite là, Pierre-André de Chalandard et Louis Gallois, notaient très récemment dans Le Monde que la géographie industrielle est désormais dominée par les villes de taille moyenne et les petites villes très spécialisées. Ils citent les Herbiers en Vendée, Vitré en Ille-et-Vilaine ou encore la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Est-ce qu'on peut y voir là le résultat de maires qui se mobilisent, et notamment au sein des interco? Est-ce qu'il y a un lien direct finalement entre le dynamisme de ces territoires-là et une mobilisation politique aussi des acteurs locaux que sont les maires?
Oui, dans certaines des villes que vous avez citées, effectivement, il y a le rôle du maire, de l'équipe municipale et de l'ensemble des techniciens qui ont joué un rôle. Ils ont pu jouer un rôle pas forcément seul, hein. Ils ont pu réussir à mener cette dynamique industrielle parce qu'ils ont réussi à mettre autour de la table toutes les personnes nécessaires pour cette dynamique industrielle, et donc industrielle y compris. Donc il ne faut pas avoir là seulement le résultat, on va dire, de l'action d'hommes politiques, mais c'est le résultat d'un projet territorial qui peut être, on va dire, mené par le maire ou le président d'une intercommunalité, mais il ne le fait pas seul. C'est toujours un ensemble d'acteurs.
Lucas Chevrier, dans quelle mesure les moyens financiers ont-ils suivi? Il y a un rapport de la Cour des comptes publié en 2023 qui nous raconte que les intercommunalités, mobilisent environ 3 milliards d'euros en 2013 pour près de 4,2 milliards d'euros en 2021. Est-ce qu'on peut voir là une action effectivement purement financière en soutien aussi à cette délégation de compétences?
Oui et non. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il y a des sujets financiers. Si on prend la somme des dépenses que l'État consacre au développement économique, selon un rapport du Sénat, on arrive à peu près à 200 milliards. Donc 3 de la part des régions et 1,5 de la part des interco. C'est vrai que ça pèsera pas dans la balance, mais en revanche, ce que ça interroge et ce que moi je travaille dans ma thèse, c'est plutôt la qualification de l'action qui est mise en œuvre. C'est-à-dire que il convient, et notamment si on regarde les exemples chinois, les exemples américains au niveau local, on a des sortes de services publics spécialisés qui concourent véritablement comme avantage comparatif à développer de l'industrie. Et l'enjeu, c'est développer ces services et non uniquement reposer sur une diplomatie qu'on pourrait qualifier trivialement de carnet de chèques. Puisque c'est précisément, par exemple, si on prend Saint-Nazaire, vous avez des chantiers navals assez de longue date, qui repose en grande partie sur ces perspectives foncières de réaménagement permanent du foncier, mais également, par exemple, sur une politique de l'emploi et de la formation qui est très dynamique, parce que ça demande des compétences très précises. Et donc, on aura beau avancer des centaines de milliards, ça ne suffira pas. Et donc, il y a la question de l'atterrissage, en fait, de ces compétences et de l'écosystème industriel à développer.
Et puis, on parlait d'un retrait de l'État, ou en tout cas d'une reconfiguration de son action. Il faut tout de même signaler qu'en 2018, le 22 novembre 2018 exactement, Édouard Philippe annonçait le lancement du programme Territoires d'industrie, dans lequel vous êtes l'un et l'autre assez impliqués. Est-ce qu'on peut voir dans cette initiative la volonté de l'État d'incarner autre chose, Lucas Chevrier, que des baisses d'impôts, par exemple, pour restaurer la compétitivité et les programmes d'investissement d'avenir, sans pour autant nécessairement trouver des moyens financiers nouveaux? Finalement, il réaffirme là une façon de chapeauter l'ensemble sans pour autant abonder financièrement et sans pratiquer cette politique de l'offre qu'il a très longtemps mis en place.
Bien, le programme Territoires d'industrie, il est intéressant puisque l'État porte un constat qui est globalement très bon, qu'on observe quand on fait un peu de la sociologie d'entretien avec les cabinets ministériels. On voit que globalement, il y a un mécontentement sur les dispositifs existants qui sont qualifiés de multiples, peu coordonnés, etc. Donc en fait, l'État se dit, on va s'appuyer sur les régions, les intercos qui se développent pour mobiliser les industriels au niveau local. Et ensuite, en effet, développer un nouveau volet qui serait un peu le pendant territorial. Donc vous avez un pendant vertical, on pourrait considérer, France 2030, 54 milliards d'euros. Vous avez un pendant horizontal, baisse d'impôts, baisse de charges, politique de compétitivité, qui représente le reste, par rapport aux 200 milliards. Et vous avez cet objet, territoire d'industrie, qui vise à mobiliser, etc. Et c'est par cette mobilisation que l'État entend créer une nouvelle forme de politique industrielle. Et c'est d'autant plus intéressant, puisqu'en gros, il propose aux régions et aux intercos un modèle. Voilà, vous faites un binôme élu industriel, vous organisez comme vous voulez. Vous faites remonter les fiches actions et moi, j'essaierai de prioriser. Bon, est-ce que cette priorisation a vraiment eu lieu? Pas forcément, mais en revanche...
La possibilité était donnée, en tout cas.
La possibilité était donnée, ça a facilité dans certains territoires, je parle notamment des intercos, qui avaient parfois certaines difficultés après la loi NOTRe à passer d'une logique d'aménagement de parcelles à une logique d'accompagnement des industriels. Ben là, on a pu voir, en effet, notamment grâce à un financement des chefs de projet, une montée en puissance des intercos. Ailleurs, ça n'a pas forcément eu lieu pour des raisons politiques ou du fait de moyens suffisants, mais c'est une proposition qui est faite.
Caroline Granier, est-ce qu'en 2018 et aujourd'hui encore, il était temps que l'État fasse autre chose que cette politique de l'offre à destination des entreprises et reprenne un peu cette dimension de pilotage?
Bah, les deux, de toute façon, sont complémentaires. Je rejoins Lucas sur le rôle du programme Territoires d'industrie. Il a réussi à donner les cartes aux acteurs locaux, finalement, pour redessiner pour redessiner leur futur. Après, encore une fois, sur l'appropriation du programme par les territoires.
Il y a des très grandes disparités quand même entre territoires.
Voilà, il y a des disparités très grandes entre les territoires. Et donc, certains territoires, en fait, se sont saisis du programme et ça leur a permis, justement, finalement, de se dire nous aussi, on a un tissu industriel et on veut le mettre en lumière. Et puis, pour d'autres territoires qui étaient déjà très avancés dans leur projet industriel, territorial, là, il faut mettre en place autre chose.
Lucas Chevrier, en guise de conclusion, est-ce qu'on peut établir que les intercommunalités, finalement, ont un véritable rôle politique et peut-être un message à faire passer dans le cadre des élections municipales qui arrivent?
Oui, tout à fait. 91% des intercos en service de développement économique. Voilà, moi, je conseille, allez sur le site de votre interco, que ce soit une communauté de communes, d'agglo, de métropole, et vous regardez ce qui se fait. Et honnêtement, c'est assez intéressant de voir que, même au niveau local, on peut créer des petites politiques industrielles qui concourent à la réindustrialisation. C'est un message que j'aimerais faire passer. Voilà.
Et c'est aussi l'occasion de rappeler que les élections municipales, on n'élit pas que son maire, et ça va à d'autres échelons. Donc effectivement, renseignez-vous, les Cachevriers. J'en profite pour rappeler que vous êtes tout de même également chargé de recherche économie-industrie pour Intercommunalité de France, d'où le lien. Merci beaucoup, Caroline Granier. Je rappelle que vous êtes directrice des études à la Fabrique de l'Industrie. Merci infiniment d'avoir été présent aujourd'hui.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
Messieurs les ministres, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, mes chers amis. En 1919, alors que l'espérance s'élevait à nouveau sur le monde, au lendemain de l'une des guerres les plus sanglantes de notre histoire, la conférence de la paix donnait naissance à Paris à l'Organisation internationale du travail. Ainsi se trouvait réalisée une revendication bien des fois étudiée et présentée dès le début de l'ère industrielle par des syndicalistes, par des industriels, des sociologues, par des hommes politiques et aussi par des juristes. Une paix universelle et durable, lit-on dans la partie 13 du traité de Versailles, une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale.
1919, année fondatrice pour les relations internationales, création de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, de la Société des Nations, mais aussi de la Chambre internationale du commerce. Le contexte, on l'entendait dans cet archive de 1969 qui revient sur les origines de l'OIT, incite à trouver des solutions durables pour préserver la paix. Le fait que les employeurs, les représentants du patronat aient leur mot à dire dans la construction de ce nouvel ordre international peut en revanche un peu étonner. Comment comprendre leur volonté d'être représentés tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, au sein des organisations internationales? Quelle est au juste leur légitimité et dans quelle mesure sont-ils parvenus à porter leurs intérêts dans la construction des relations commerciales internationales? Aujourd'hui encore, les patrons restent-ils des artisans actifs de la diplomatie économique? Lorsque Donald Trump, au hasard, bouscule les codes établis plongeant les entreprises dans l'incertitude, qui écoute ses représentants du patronat et parle-t-il encore un langage commun? Pour notre invité du jour, c'est une véritable diplomatie patronale qui se structure progressivement autour de ces marchands de la paix devenus diplomates du capitalisme de 1919 à nos jours et dont nous allons suivre les traces aujourd'hui. Marieke Louis, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante-chercheuse en sciences politiques et relations internationales à Sciences Po Lille. Vous êtes associée au CERAPS, le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Vous êtes une grande spécialiste des organisations internationales et du multilatéralisme et puis vous intéressez de près aussi aux liens entre entreprises multinationales et organisation internationale. Alors on a vu pendant les deux précédents épisodes qu'en France, la question du commerce international avait été dans un premier temps plutôt une question d'experts, de débats très théoriques, notamment entre économistes, où il fallait être en mesure de mesurer qui produit quoi pour la croissance de la France finalement. Et puis on a vu la semaine dernière avec Laurence Badel que la diplomatie économique est restée malgré tout avant tout une affaire d'État très incarnée par le Quai d'Orsay et qui porte aussi les intérêts des entreprises, mais tout de même, ça reste une affaire d'État. Est-ce qu'on peut dire que si on se concentre uniquement sur cette vision, il nous manque là, Marieke Louis, un maillon essentiel pour comprendre comment se sont construites les relations commerciales internationales, à savoir les patrons eux-mêmes. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit, le multilatéralisme tel qu'il existait jusqu'à récemment, sans se concentrer sur le rôle des patrons dans la construction de ces liens?
Oui, effectivement, c'est un peu l'objet de cette expression de diplomate du capitalisme qui vient rappeler que, eh bien, de la même manière que les États vont partir à la conquête de l'économie, eh bien, les entreprises privées, les patrons s'organisent eux aussi. Et derrière cette idée de patron diplomate, diplomate du capitalisme, il y a vraiment cette idée d'une interdépendance, de rappeler que les patrons eux aussi font de la politique, pas au sens militant et partisan du terme, mais au sens où ils vont investir les arènes, qui sont plutôt le lieu réservé des États, mais aussi leur répertoire d'action et leur mode de légitimation, notamment.
Mais vous le dites vous-même dans vos travaux, c'est écrit noir sur blanc, cette action, en tout cas cette présence des patrons, reste une dimension assez sous-explorée aussi de la coopération multilatérale et de l'entreprise et des entreprises à l'international. Vous l'avez exploré pendant plus d'un siècle. Dans quelle mesure, c'est une question que je me posais, mais dans quelle mesure cette sous-exploitation, cette sous-exploration, elle est un peu volontaire aussi? Dans quelle mesure les patrons qui ont fait partie des institutions dont on va parler aujourd'hui avaient un peu intérêt aussi à rester cachés? C'était un peu vivant caché pour vivre heureux finalement. Dans quelle mesure tout ça est relativement volontaire de leur part aussi et que cette sous-exploitation, dans la recherche même de façon plus générale sur la scène politique, est encore une fois volontaire?
Alors, il y a effectivement une préférence pour la discrétion. On parle parfois de quiet politics pour caractériser l'influence patronale, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou international. Mais disons que cette discrétion, elle est aussi le fait des sciences sociales. Il faut dire que les organisations patronales, les acteurs économiques, notamment en sciences politiques ou dans l'étude des relations internationales, sont longtemps passés sous les radars des universitaires. Et c'était le point de départ aussi de cette recherche. On ne peut pas d'un côté postuler justement le pouvoir des multinationales, l'influence de l'entreprise privée ou du patronat mondial sur la politique et se désintéresser de ceux qui prétendent justement défendre ses intérêts au niveau mondial. Donc il y avait vraiment de ce point de vue-là aussi un à la fois faire sortir du bois ces acteurs qui n'ont pas effectivement forcément toujours intérêt à ce qu'on s'intéresse à eux de trop près, mais il y avait aussi un désintérêt académique qu'il fallait à mon sens combler.
Et comment vous l'expliquez, ce désintérêt académique?
Il y a toujours eu historiquement plutôt une préférence pour les mobilisations de la société civile. Pour le coup, il y a beaucoup de travaux sur les mobilisations syndicales. Il y a aussi le fait que, historiquement, avoir accès aux acteurs patronaux, c'est plus difficile. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir accès aux archives de l'Organisation internationale des employeurs de par mes précédentes recherches sur l'Organisation internationale du travail. Il y a aussi quelques archives auprès de la Chambre de commerce internationale. Mais c'est vrai que ce sont des acteurs qui sont aussi plus à distance des sciences sociales et qui nécessitent un travail de longue haleine pour pouvoir aussi les approcher.
Et ce travail, Marieke Louis, vous l'avez mené auprès notamment de deux institutions, la Chambre de commerce internationale et l'OIE, l'Organisation internationale des employeurs. Pourquoi ces deux institutions-là en particulier ont retenu votre attention ?
Parce qu'elles prétendent toutes deux, et d'ailleurs non sans rivalité parfois, porter justement la voix du monde des affaires, du business, de l'entreprise privée. Tous ces mots sont utilisés de manière équivalente, même s'ils ne se recoupent pas complètement. Et puis parce que justement, elles incarnent cette représentation du monde des affaires dans deux domaines qui sont un peu les deux piliers du capitalisme. Le domaine économique et financier pour la Chambre de commerce internationale et le domaine social. Hein. Vous avez commencé par une archive de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui vient nous rappeler le rôle que jouent les normes sociales dans l'agencement des échanges internationaux. Donc deux organisations qui ont une même prétention, mais qui aussi incarnent deux facettes du capitalisme.
Vous venez de mentionner le fait qu'il était important de ne pas confondre les termes, que tout ne se recoupait pas parfaitement. Alors, il y a un terme qu'on a peu l'habitude d'entendre, alors il va falloir nous l'expliquer, Marieke Louis, mais c'est celui de diplomatie patronale. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, l'idée de diplomatie patronale ou de patron diplomate, c'est pas un terme qu'il faut prendre ni pour enjoliver ni pour euphémiser le pouvoir des acteurs de l'entreprise privée. C'est justement un terme qui vient rappeler cet investissement historique, durable, formalisé aussi. On ne parle pas de diplomatie informelle ou dans les couloirs. On est vraiment sur un rôle très formalisé de ces acteurs patronaux dans les arènes multilatérales. Donc, c'est un investissement des lieux qui sont historiquement le domaine réservé de l'État, d'un répertoire d'action, aussi le répertoire d'action diplomatique qui passe par de la négociation, mais c'est aussi insister sur des missions que se sont données aussi à des fins de légitimation ces organisations, celle de pacifier les relations internationales par le biais du commerce pour la Chambre de commerce internationale, celle d'être le garant d'un dialogue social au niveau international pour l'Organisation internationale des employeurs. Et puis, c'est aussi au niveau individuel des circulations entre des élites privées et publiques où on va retrouver aussi, même si c'est une minorité, mais des individus qui ont eu des rôles importants dans l'appareil d'État. Vous parliez la semaine dernière d'Étienne Clémentel, qui a été le premier président de la Chambre de commerce internationale. Il a été aussi ministre en France.
Et circulations.
Des circulations. Ajay Banga, l'actuel président de la Banque mondiale, on le dit trop peu, c'est aussi un ancien président de la Chambre de commerce internationale qui, avant cela, a fait toute sa carrière, enfin, une partie de sa carrière chez PepsiCo et Mastercard. Donc, il y a beaucoup de circulations aussi à ce niveau-là. Et parler aussi de diplomate ou de patron diplomate, c'est aussi pour rappeler que, au-delà de cette fonction de lobbying sur le court terme que ces organisations font, et comme n'importe quel groupe d'intérêt, ce qu'elles construisent, ce qu'elles négocient plus fondamentalement, c'est la reconnaissance, c'est la normalisation de l'entreprise privée comme une actrice indispensable, incontournable dans l'élaboration du jeu ou des règles du jeu commercial à l'échelle mondiale. Donc il y a aussi l'idée de négocier la légitimité d'une entité, en l'occurrence ici l'entreprise privée, voire de considérer que l'entreprise privée participe aussi de la définition de l'intérêt général.
Oui, mais c'est tout de même intéressant, Marieke Louis, il y a donc ces deux missions que vous venez d'évoquer. Pourquoi les représentants des entreprises, les représentants des employeurs ne s'en remettent pas à l'État finalement? Est-ce qu'ils ont une forme de défiance? Ils ont envie précisément de le contourner parce que jugé incompétent? Comment expliquer qu'ils décident de prendre la tangente au sein même de ces relations internationales?
Alors, il y a toujours effectivement un double registre. Il y a un registre défensif, celui que vous avez expliqué, la défiance vis-à-vis de l'État, la défiance de voir un État, et ça c'est surtout vrai. Alors, c'est déjà vrai en raison de la révolution bolchevique au lendemain, avec la Première Guerre mondiale.
L'anticommunisme très prononcé.
L'anticommunisme très prononcé dans ces deux organisations et qui va se renforcer pendant la guerre froide. Du côté de l'OIT, il faut aussi imaginer des patrons qui voient des syndicats s'organiser et qui vont aussi être autour de la table en raison de la nature tripartite de l'Organisation internationale du travail. Donc là, il y a une fonction assez défensive, mais il y a aussi une fonction, je dirais, plus offensive, plus propositionnelle, qui consiste justement à essayer
d'imposer sur la scène internationale l'agenda de ces organisations, un agenda libéral. Hein. La Chambre de commerce internationale rappelle qu'elle n'est pas là, elle ne doit pas attendre qu'on la consulte, elle doit aussi faire émerger des thématiques à l'ordre du jour international, défendre le libre-échange, lutter, sonner l'alerte dès lors que les mesures protectionnistes prennent le pas. Donc il y a vraiment ces deux registres qui sont là, défensifs et offensifs.
Marie-Claude, j'anticipe un petit peu aussi sur l'intro ordre chronologique, mais pour comprendre aussi la raison pour laquelle nous consacrons une émission à ces deux institutions, est-ce qu'elles jouent encore aujourd'hui un rôle important? De votre propre aveu, on a peu conscience, en tout cas on les cite très peu, on ne les connaît pas forcément aussi bien que souhaitable sans doute, mais est-ce qu'aujourd'hui encore elles ont cette position d'influence à la fois pour la CCI, la Chambre de commerce internationale, et pour l'OIE, l'Organisation internationale des employeurs?
Oui, elles jouent toujours un rôle. En 2016, la CCI, la Chambre de commerce internationale, s'est vue octroyer un statut d'observateur permanent auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la première organisation émanant du secteur privé qui obtient ce statut. On pourra en reparler, mais c'était aussi une sorte de reconnaissance octroyée hein, par les gouvernements, notamment par le gouvernement français pour son rôle lors de la COP de 2015 et donc son implication dans les négociations environnementales. Et là, si on prend juste la Chambre de commerce internationale, puisque c'est aussi de ça dont il est question au niveau du commerce, elle joue un rôle aussi de lanceur d'alerte hein, et de critique virulente des mesures protectionnistes de l'administration Trump. Elle vient d'éditer un rapport sur la face cachée, la valeur cachée des échanges internationaux au travers du rôle de l'Organisation mondiale du commerce. Donc elle se porte aussi d'une certaine manière comme garante des institutions multilatérales, d'institutions dont elle tire aussi sa légitimité, il faut le dire.
Dans un contexte où le multilatéralisme est tout de même mis à mal, on se posera la question de ce qui le reste de leurs ambitions. Mais avant cela, Marie-Claude, il faut revenir aussi sur ce qu'on a commencé à effleurer, cette idée d'un apolitisme, malgré tout, mais d'un libéralisme affirmé. Alors, pour bien comprendre ce qu'on entend par ce libéralisme, je vous propose d'écouter une archive et de laisser la parole à Gabriel Vanjol, président du Conseil économique et social, chef de la délégation de la France à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui s'exprimait en 1983 dans les matinales de France Culture.
L'idée d'étendre, de maintenir dans certains pays, d'étendre à l'ensemble de la planète le progrès social. Et l'aspect économique des choses, c'est que nous ne voulions pas que, sous prétexte de concurrence internationale, l'on maintienne à un niveau extrêmement bas des situations, notamment dans les pays en voie de développement, et qu'on diminue. Ce que je crois, c'est que dans le mouvement syndical français et dans le mouvement syndical international, c'était tout de même une revendication qui se manifestait avant même la guerre. Et c'est le fait que cette revendication s'exprimait que les plénipotentiaires en ont tenu compte lors de l'élaboration du traité de Versailles en 1919.
Lorsque l'Organisation internationale du travail est créée en 1919, autour notamment de la figure qui est restée célèbre d'Albert Thomas, l'idée était quand même de réunir, et nous l'avons dit, trois parties, les syndicats, les gouvernements, les employeurs. Une place est donc laissée aux organisations patronales nationales, qui sont officiellement membres de l'OIT. Alors ensuite, qui vont se formaliser, on va dire, pour aller très vite, dans l'OIE, l'Organisation internationale des employeurs, mais même pour la CCI, la Chambre de commerce internationale, Marie-Claude, dans quelle mesure les individus qui ont fait partie de ces institutions-là avaient conscience d'incarner une sorte de solution face à l'horreur qu'a été la guerre? Et dans quelle mesure ce qui les constituait, on va dire, était vraiment l'idée d'affirmer la puissance du doux commerce en tant qu'élément pacificateur? Dans quelle mesure ces gens-là avaient vraiment la conscience d'incarner une forme d'instrument de la paix?
Alors, ils avaient en tout cas la conviction, sinon peut-être la conscience de l'incarner. Disons que sur cette question-là, ils ont quand même endossé un rôle quand même ce slogan hein, des marchands de la paix qui vient donc reformuler ce qu'on a appelé le doux commerce, qui est finalement un libéralisme très classique, hein, à la fois à la Smith, à la Ricardo, sur cette idée que tout le monde aurait in fine intérêt à participer au commerce mondial, qui veut limiter au maximum l'intervention de l'État et en même temps, qui contrairement à ce qu'on peut entendre, n'est pas du tout synonyme de dérégulation. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des acteurs, du côté de l'OIE comme du côté de la Chambre de commerce internationale, dans les domaines qui sont au cœur de leur mandat, ce sont des acteurs qui sont des régulateurs. Ce sont des acteurs qui veulent faire en sorte de faciliter les échanges commerciaux, d'encourager les investissements, et pour ça, il faut des règles. Il faut des règles qui vont rendre ce commerce prévisible. Il il faut des règles qui vont aussi du côté des patrons, limiter les risques de dumping social, parce qu'on sait que des nations ou des États aux législations sociales faibles ou inexistantes, eh bien, sont un danger, incarnent une forme de concurrence déloyale. Donc, de ce point de vue-là, ce sont des acteurs qui croient en ce qu'on a appelé plus tard, est-ce que quelqu'un comme John Ruggie, par exemple, un universitaire qui a aussi joué un rôle au sein de l'ONU sur la régulation des multinationales, ont appelé un embedded liberalism, un libéralisme encadré, encastré, mais pas encastré dans l'État, encastré dans des institutions multilatérales. Et c'est ça souvent cette spécificité que parfois on a du mal à saisir, c'est-à-dire qu'on peut à la fois être dans un libéralisme et une adversité, et une méfiance vis-à-vis de l'État, avec un reproche aussi très clairement fait, hein, un certain mépris, hein, une sorte de mépris pour l'incompétence des politiciens en matière économique, et en même temps une demande d'encadrement, une demande de structure multilatérale. Et c'est cette ambivalence que je trouve très intéressante à explorer. On peut être dans le refus de l'État, mais dans le besoin de multilatéralisme.
Alors dites-moi si je me trompe, Marie-Éque-Louis, mais est-ce que ce serait caricatural de dire que finalement les représentants patronaux avaient tout intérêt à faire partie de ces institutions pour faire peser leur point de vue, tout simplement, qui était le leur, oui. Et qu'ils ont déguisé cela, ou en tout cas qu'ils ont entouré cela d'une forme de rhétorique autour d'un discours pacificateur ou d'un discours de ce libéralisme doux commerce revisité.
Alors, je ne sais pas s'ils l'ont déguisé. En tout cas, il y a une fonction de légitimation. Ils ont besoin aussi de ces organisations, et c'est tout l'enjeu de cette caractéristique de patron diplomate ou de diplomate du capitalisme. Ils ont besoin de ces institutions, justement, pour reconnaître la légitimité, pas juste économique. Celle-ci, on peut dire que globalement, elle est acquise, enfin, ou en tout cas, elle n'est pas remise en cause par l'État. Ils ont besoin de cette reconnaissance multilatérale pour légitimer le rôle social et le rôle aussi politique de l'entreprise privée, ce qui a atteint son paroxysme à la fin des années 90 autour du Global Compact, qui en fait reconnaît cette idée de responsabilité sociale des entreprises. La Chambre de commerce internationale va avoir tout un discours autour des entreprises multinationales qui deviennent de véritables citoyennes. Donc il y a vraiment cette revendication d'un rôle politique. Donc c'est une forme de légitimation, mais pour moi, il ne s'agit pas forcément d'opposer ce qui serait du ressort de l'intérêt économique et réputationnel et ce qui serait de la construction politique. Et je pense que, ou de la légitimation politique, je pense que ce qu'on observe aujourd'hui avec des organisations patronales qui sont quand même assez critiques des transformations actuelles et de ce détricotage du multilatéralisme, montre qu'elles ont aussi un besoin de ces institutions. Il y a vraiment une interdépendance forte, peut-être plus forte que pour des organisations patronales nationales ou pour des entreprises multinationales prises individuellement. Il y a peut-être, elles ont plus ce besoin de ces organisations et pas uniquement à des fins d'habillage.
Mais ce qui est curieux toutefois, Marie-Éque-Louis, parce qu'on pourrait se dire que les grosses entreprises, les multinationales, ont les moyens de représenter, de faire peser leurs intérêts dans la construction des politiques publiques de façon générale et à l'international aussi, ou par association, par fédération d'entreprises en termes de secteur, peuvent peser en termes de lobbying à Bruxelles par exemple. Pourquoi ont-elles besoin d'être présentes dans ces deux institutions, OIE et CCI ?
Parce que la grande différence, c'est que ces organisations, justement par rapport à celles que vous avez citées, bon, d'une part, elles peuvent se prévaloir d'une légitimité d'ordre universel. Hein, ça compte quand même politiquement quand on peut dire qu'on représente des membres dans 170 pays pour la Chambre de commerce internationale, 140 pays pour l'Organisation internationale des employeurs. C'est aussi une représentativité, enfin une légitimité tirée d'une représentativité intersectorielle. Cette idée que justement, elles ne représentent pas des intérêts corporatistes, mais qu'elles représentent vraiment les intérêts de l'entreprise privée dans ce qu'elle peut avoir d'entité aussi qui serait plus noble ici, vraiment l'idée qu'il y aurait une cause de l'entreprise. Et puis parce que, alors certes, les entreprises multinationales, justement, au niveau sectoriel, elles n'ont pas besoin véritablement de passer par ces organisations, mais en termes d'interlocuteurs officiels, il y a besoin de cette entremise institutionnelle pour pouvoir quand même accéder à ces arènes. Donc il y a besoin justement d'une construction politique de cette légitimité que des entreprises multinationales en propre ne peuvent pas assumer, a fortiori si elles sont dans un rapport aussi d'adversité avec des mouvements sociaux qui vont critiquer leur technique de greenwashing ou autre. Et donc du coup, ces organisations internationales plus larges jouent quand même un rôle aussi de protecteur de ces entreprises prises au niveau individuel.
Alors pour comprendre aussi quels étaient les objectifs des individus, des représentants patronaux qui faisaient partie de ces institutions, les leviers qu'ils entendaient actionner et auprès de qui ils souhaitaient peser, je vous propose d'écouter encore une autre archive issue de l'émission Chronique du commerce extérieur, diffusée le 26 juin 1950.
Il y a quelques jours, s'est tenue à Paris la 63e session du Conseil de la Chambre de commerce internationale, au cours de laquelle plus de 100 délégués de 24 pays ont étudié les principaux problèmes économiques et financiers qui préoccupent actuellement le monde. Signalons l'importance des délégations américaines, belges, britanniques, allemandes et suédoises en raison de l'autorité de leurs membres. Je dois une mention particulière pour la délégation française, dont le président, M. Giscard d'Estaing, est aujourd'hui dans notre studio. Quelles sont les principales décisions qui ont été prises au cours de cette session?
Vous me demandez de résumer en quelques mots un travail assez vaste et que l'on risque de trahir en le ramenant à deux ou trois points seulement. Mais enfin, pour répondre à votre désir, je vous dirai que la Chambre a condamné de façon définitive les restrictions quantitatives, c'est-à-dire la politique du contingentement. Elle a élaboré un programme détaillé quant au processus suivant lequel cette abolition doit être réalisée, et elle a conclu avec une précision, une netteté que l'on aimerait trouver dans d'autres délibérations internationales, que les États-Unis, étant la principale nation créditrice du monde et le producteur le plus important, devaient montrer leur volonté d'acheter largement à l'étranger, de façon à ce que l'économie internationale s'établisse au niveau le plus élevé possible d'activité, engendrant le maximum d'élévation du niveau général de vie.
La délégation américaine qui participait à vos travaux a-t-elle voté à l'unanimité cette résolution?
Parfaitement, sans aucune hésitation. Il est bien évident que toute branche d'industrie qui voit diminuer sa protection douanière peut s'efforcer de défendre sa position personnelle. Mais il est remarquable que, prise dans son ensemble, la délégation américaine est elle-même, avec beaucoup de hauteur de vue, reconnu qu'une modification était indispensable dans la politique douanière des États-Unis vis-à-vis du reste du monde.
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que son attitude soit comprise par le gouvernement des États-Unis.
Alors attention, Giscard d'Estaing peut en cacher un autre. Il s'agit ici d'Edmond, père de Valérie. Et on est dans une toute autre époque, hein, puisque l'espoir que les États-Unis se conforment à une vision commune de ce que devraient être les relations commerciales entre les nations semblait donc à l'époque raisonnable. Et l'on entendait donc Edmond Giscard d'Estaing qui a bon espoir que le gouvernement américain écoute les préconisations de la CCI. Finalement, Marie-Louis, est-ce que le but de ces institutions-là est celui-ci, est de fournir une forme d'agenda, des formes de recommandations pour les gouvernements en place?
Oui, des recommandations. Il y a aussi un terme qui est employé, ce qui est cette idée aussi de faciliter. La Chambre de commerce internationale, plus que l'Organisation internationale des employeurs sur ce point, elle bénéficie de relais au niveau national, ces comités directeurs, ou ce qu'on peut appeler parfois ICC France, par exemple, CCI France, de même pour d'autres pays, de même pour les États-Unis. Et donc, il y a cette idée que la Chambre de commerce internationale est là aussi pour faire, on rejoint cette idée de diplomatie, de la médiation, de la traduction, et doit négocier l'acceptabilité du libre-échange et des règles du commerce international aussi auprès des communautés patronales nationales. Et ça, c'est un rôle sur lequel revient Edmond Giscard d'Estaing dans cette archive.
Mais se pose tout de même une énorme question, Marie-Louis, comment on arrive à faire parler d'une seule et même voix toutes les industries, toutes les entreprises représentées, alors même que l'extrait le disait aussi très bien, en fonction des nationalités de chacun, tout le monde n'a pas le même intérêt.
Oui, et ça c'est un point très intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à fantasmer un petit peu l'unité du monde patronal, ce que je disais au début, avec cette idée qu'il y aurait un lobby des multinationales ou autre, alors qu'en fait, l'autre raison d'être de ces organisations, c'est aussi d'orchestrer la conflictualité en leur sein et de faire en sorte justement que cette conflictualité ne transparaisse pas au mauvais moment, c'est-à-dire dans des négociations internationales où là, il faut justement pouvoir incarner une position du business. Et donc, c'est aussi à ça qu'elles servent. Et dans ces conflits, eh bien effectivement, alors il est toujours difficile de déceler une doctrine, ce que serait une doctrine commerciale qui viendrait refléter les intérêts d'un tel ou un tel, puisqu'elle fonctionne quand même de manière hybride, un peu à mi-chemin entre un conseil d'administration d'une entreprise où ceux quand même qui payent davantage ont le plus d'influence. Et là, on va retrouver quand même les États-Unis.
C'est ce que je veux dire, il y a quand même des positions de domination.
Il y a des positions de domination et des rapports de force. Mais elles fonctionnent aussi comme des organisations internationales au sens où elles ont des gros enjeux de représentativité, y compris des enjeux de représentativité géographique. Et tout l'intérêt de cette deuxième grande période, c'est aussi eh bien leur ouverture du côté de la Chambre de commerce internationale, une ouverture assez forte vers l'Asie. Elle va, dans les années 90, largement soutenir l'adhésion de la Chine, par exemple, à l'Organisation mondiale du commerce. Du côté de l'Organisation internationale des employeurs, il y a quand même aussi une forte influence des pays latino-américains, des pays africains. L'actuelle présidente de l'OIE, c'est Jacqueline Mugo, qui était présidente auparavant de la Fédération des employeurs du Kenya. Donc il y a vraiment aussi des enjeux de représentativité qui sont assez forts. Et c'est pour ça que finalement, quand on se concentre sur leur texte, ce qui reste, c'est quand même un plus petit dénominateur commun du libéralisme tel qu'on l'a énoncé, mais qui ensuite, quand on va regarder dans des secteurs particuliers, va quand même se doubler d'une expertise, d'une technicité qui là, pour le coup, est assez spécifique.
Très rapidement, Marie-Louis, pour conclure cette émission, si on vous suit, on ne peut pas parler d'une spécificité de la France, par exemple. Est-ce que les documents, les archives nous donnent à voir une forme de position, de doctrine française au sein de ces organisations-là?
Non, il y a une position importante de la France, ne serait-ce que avec le siège de la Chambre de commerce internationale qui est à Paris, le fait qu'elle a eu beaucoup de présidents, secrétaires généraux qui ont accédé à des positions de leadership, le fait que Laurent Fabius a travaillé main dans la main lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères avec la Chambre de commerce internationale, notamment au niveau des négociations environnementales. Mais parler d'une doctrine française, il faudrait dans ce cas-là l'étudier sans doute à un autre niveau. On peut quand même rappeler que Philippe Varin est l'actuel président de la Chambre de commerce internationale, c'est un ancien de PSA. Donc ça montre que, de ce point de vue-là, l'influence des acteurs français est bien présente.
Et perdure. Merci beaucoup, Marie-Louis. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse en sciences politiques et relations internationales à Sciences Po. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « La dépolitisation du monde » paru en 2024 aux presses de l'Université de Montréal, écrit avec Lucille Martens. Citons également l'Organisation internationale du travail et le travail décent, un agenda social pour le multilatéralisme, paru lui chez l'Armatan. Il est 14h55 encore, l'heure de retrouver Alexandra Roulet et son fil de l'écho. Et aujourd'hui, vous nous parlez, Alexandra, des prix des billets de train héritage des années 80.
Pourquoi le prix de votre course Uber varie-t-il selon l'heure? Pourquoi votre billet de train coûte-t-il deux fois plus cher que celui de votre voisin de siège? Derrière ces tarifs fluctuants se cache une révolution scientifique née dans le ciel américain des années 1980. L'histoire commence en 1978 lorsque le président Jimmy Carter signe la loi de dérégulation du transport aérien. Du jour au lendemain, les compagnies peuvent fixer leurs prix librement. American Airlines fait alors face à l'arrivée sur le marché de People Express, une compagnie à bas coût aux tarifs défiant toute concurrence. Comment résister ? Robert Crandall, directeur financier d'American Airlines, observe que la plupart des vols partent avec des sièges vides. Un manque à gagner puisque le coût d'un passager supplémentaire est quasi nul. Ces sièges pourraient être vendus moins cher aux voyageurs loisirs. Mais comment éviter que les voyageurs business, qui paient plus cher, n'en profitent ? L'idée ? Segmenter le marché. Les voyageurs loisirs doivent réserver 30 jours à l'avance et rester sur place le samedi soir. Les semaines précédant le vol, les prix augmentent avec une flexibilité accrue qui convient aux passagers business. En France, depuis les années 1950, l'économiste Marcel Boiteux développait des modèles de tarification à la philosophie similaire avec des heures de pointe pour l'électricité et les transports. Cette discrimination par les prix n'est pas nouvelle. Elle est utilisée depuis le XVe siècle pour taxer les cargaisons apportées au Danemark par bateau. Mais dans les années 80, les économistes utilisent de nouvelles techniques mathématiques pour l'appliquer à des milliers de vols et surtout pour calculer combien de sièges alloués à chaque catégorie de clients. Entre-temps, People Express a fait faillite, le pouvoir des maths. Ces innovations se propagent ensuite aux hôtels, puis au commerce de détail. Dans les années 2000 et 2010, nouvelle évolution, avec l'explosion des plateformes en ligne, on passe de la tarification par catégorie à la tarification individuelle, puisque chacun donne une valeur différente aux produits achetés. Uber applique le surge pricing, la tarification en heure de pointe, pour équilibrer offre et demande de chauffeurs en temps réel. Les publicités sur Google sont aussi vendues en temps réel par enchères automatisées. Le commerce en ligne personnalise non seulement les prix, mais aussi la variété des produits présentés à chaque consommateur, ce qu'on appelle l'assortiment. Les prix sont donc fixés par des machines et l'économie devient ainsi algorithmique, selon la formule d'Ilan Lobel, l'un des leaders de ces technologies. Ces algorithmes promettent d'ajuster finement l'offre à la demande, mais ils transforment aussi chaque achat en négociation invisible. Le prix n'est plus ce que vaut la chose, c'est ce que vous êtes prêt à payer. La question n'est plus seulement économique, elle devient politique. Qui décide des règles de ce jeu ?
Merci beaucoup Alexandra. Votre fil de l'écho est à retrouver sur l'application Radio France, le site et les réseaux sociaux de France Culture, ce qui est aussi le cas de cette émission. Rendez-vous sur la page d'Entendez-vous l'écho et je vous dis à la semaine prochaine.